Lettre 30. À Asa. Son impatience de le voir arriver. Description des visites en France. Que ton voyage est long, mon cher Asa, que je désire ardemment ton arrivée. Le temps a dissipé mes inquiétudes, et maintenant je ne les regarde que comme un songe dont la lumière du jour a effacé l'impression. J'ai commis un crime en te soupçonnant. Mon repentir redouble ma tendresse, et a presque arraché de mon âme le sentiment de compassion qui l'intéressait aux maux de Déterville. Je ne puis lui pardonner la mauvaise opinion qu'il a de ton cœur. Celle que je prends du sien diminue beaucoup la pitié que j'avais de ses peines et le regret d'être en quelque façon séparé de lui. Nous sommes à Paris depuis 15 jours. Je demeure avec Céline dans la maison de son mari, assez éloignée de celle de son frère, pour n'être point obligée à le voir à toute heure. Il vient souvent y manger, mais nous menons une vie si agitée, Céline et moi, qu'il n'a pas le loisir de me parler en particulier. Depuis notre retour, nous employons une partie de la journée au travail pénible de notre ajustement, et le reste à ce qu'on appelle rendre des devoirs. Ces deux occupations me paraîtraient aussi infructueuses qu'elles sont fatigantes, si la dernière ne me procurait les moyens de m'instruire encore plus particulièrement des mœurs du pays. À mon arrivée en France, n'ayant aucune connaissance de la langue, je ne jugeais que sur les apparences. Lorsque je commençais à en faire usage, j'étais dans la maison religieuse. Tu sais que j'y trouvais peu de secours pour mon instruction. Je n'ai vu à la campagne qu'une espèce de société particulière. C'est à présent que, répandu dans ce qu'on appelle le grand monde, je vois la nation entière. Les devoirs que nous rendons consiste à entrer en un jour dans le plus grand nombre de maisons qu'il est possible, pour y rendre et y recevoir un tribut de louanges réciproques sur la beauté du visage, de la taille, sur l'excellence du goût et du choix des parures. Je n'ai pas été longtemps sans m'apercevoir de la raison qui fait prendre tant de peine pour acquérir cet hommage frivole. C'est qu'il faut nécessairement le recevoir en personne, encore n'est-il que bien momentané. Dès que l'on disparaît, il prend une autre forme. Les agréments que l'on trouvait à celle qui sort ne servent plus que de comparaison méprisable pour établir les perfections de celle qui arrive. La censure est le goût dominant des Français, comme l'inconséquence et le caractère de la nation. Leurs livres sont la critique générale des mœurs, et leurs conversations celle de chaque particulier, pourvu néanmoins qu'il soit absent. Alors on dit librement tout le mal que l'on en pense, et quelquefois celui que l'on ne pense pas. Les gens de bien suivent la coutume. On les distingue seulement à une certaine formule d'apologie de leur franchise et de leur amour pour la vérité, au moyen de laquelle ils révèlent sans scrupule les défauts, les ridicules et jusqu'aux vices de leurs amis. Si la sincérité dont les Français font usage les uns contre les autres n'a point d'exception, de même leur confiance réciproque est sans borne. Il ne faut ni éloquence pour se faire écouter, ni probité pour se faire croire. Tout est dit, tout est reçu, avec la même légèreté. Ne crois pas pour cela, mon cher Asa, qu'en général les Français soient nés méchants. Je serais plus injuste qu'eux si je te laissais dans l'erreur. Naturellement sensible, touché de la vertu, je n'en ai point vu qui écoutât sans attendrissement le récit que l'on m'oblige souvent à faire de la droiture de nos cœurs, de la candeur de nos sentiments et de la simplicité de nos mœurs. S'il vivait parmi nous, il deviendrait vertueux. L'exemple et la coutume sont les tyrans de leur conduite. Tel qui pense bien d'un absent, en médit pour n'être pas méprisé de ceux qui l'écoutent. Tel autre serait bon, humain, sans orgueil, s'il ne craignait d'être ridicule. Et tel est ridicule par état, qui serait un modèle de perfection, s'il osait hautement avoir du mérite. Enfin, mon cher Asa, dans la plupart d'entre eux, les vices sont artificiels comme les vertus, et la frivolité de leur caractère ne leur permet d'être qu'imparfaitement ce qu'ils sont. Tel à peu près que certains jouets de leur enfance, imitation informe des êtres pensants, ils ont du poids aux yeux, de la légèreté au tact. La surface colorée, un intérieur informe, un prix apparent, aucune valeur réelle. Aussi ne sont-ils guère estimés par les autres nations que comme les jolies bagatelles le sont dans la société. Le bon sens sourit à leur gentillesse, et les remet froidement à leur place. Heureuse la nation qui n'a que la nature pour guide, la vérité pour principe, et la vertu pour premier mobile.